Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview.
Et c'est Romu Balskiora que nous accueillons avec Annalisa Cappellini, chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis. Bonjour, merci Bonjour. D'être avec nous. Ce matin, on est à quelques mois, presque quelques semaines d'ailleurs, maintenant ça va bientôt se compter en semaines des midterms. Série de revers pour Donald Trump aux États-Unis, on va voir s'il perd la main, s'il est dans une phase de faiblesse. Il y a d'abord la Cour suprême qui revient sur le droit du sol et qui confirme que tout enfant né aux États-Unis est bien américain. Et ça, c'est important comme revers pour le président américain parce qu'il avait basé sa politique depuis longtemps là-dessus, Romuald Sciorra.
Oui, alors revers, oui et non. Bien évidemment que c'est un camouflet d'une Cour suprême qui, normalement, est à sa botte.
Et oui.
Donc le président vit cela pas très bien, mais pas spécialement mal. Pourquoi ? Parce que, un, cela lui permet de dire à son électorat de cœur, hein, à cette base MAGA qui avait commencé à s'éloigner de lui avec cette guerre en Iran, puisqu'il nous avait promis de ne jamais nous entraîner dans une guerre style Irak ou Afghanistan, et ça lui permet de dire à cette base, regardez, je suis encore celui qui doit affronter l'establishment. Même la Cour suprême, même des juges que j'ai nommés, me trahissent. Je suis vraiment du peuple, je suis celui qui défend la pureté américaine ou ce que vous voulez. Donc, revers, mais il peut s'en servir vis-à-vis de son électorat. Et n'oublions pas une chose, c'est qu'il y a quelques jours, la Cour suprême lui a fait un cadeau magnifique qui est un petit peu passé sous les radars en France. Donald Trump a aujourd'hui la possibilité de faire ce qu'il veut avec les agences fédérales. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elles étaient déjà plus ou moins mises au pas. Cette fois-ci, elles seront à sa botte.
Annalisa.
On a parfois entendu, il y a aussi le camouflet relatif à Lisa Cook qui avait été limogée et donc la Cour suprême a décidé qu'elle ne peut pas être limogée pour ces raisons-là. Donc on a beaucoup entendu en Europe en tout cas que finalement la Cour suprême était en train de lâcher Donald Trump. Est-ce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer ou c'est juste sur des sujets très précis que ça se passe ?
Alors le second point dont vous parlez là est un camouflet un peu plus personnel pour Donald Trump. Limoger quelqu'un pour lui c'est perso, comme il dit. Et se voir rétorquer par la Cour suprême est quelque chose là qu'il n'a pas vraiment apprécié. Non, la Cour suprême ne lâche pas Donald Trump, pas sur les mesures les plus importantes. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué une chose, ce n'est jamais sur le fond de l'affaire véritablement, en général, que la Cour revient sur les décisions de Donald Trump. C'est sur la manière dont les choses sont faites. C'est-à-dire, reprenons par exemple cette histoire de taxation tous azimuts au début de l'année, le 25 février dernier, lorsque la Cour a décidé dire que ce n'était pas légitime. La Cour n'a pas statué sur le fait que la politique de taxation de Donald Trump était légitime. D'ailleurs, Robert, le président de la Cour, a dit « Non, titre personnel, je trouve que c'est très bien. » C'est parce que Trump avait contourné le Congrès pour imposer cette politique de taxation. Et c'est cela que lui reprochait la Cour suprême. Alors, ce qu'il y a de positif là-dedans, c'est qu'au moins il y a un contre-pouvoir qui existe toujours aux États-Unis et qui retoque le président lorsque celui-ci fait quelque chose d'anticonstitutionnel. Mais sur le fond, elle partage quand même en grande partie la vision de Donald Trump et on ne peut pas dire qu'elle le lâche. Par contre, on peut dire que la Cour suprême est peut-être le dernier contre-pouvoir qui fonctionne aujourd'hui aux États-Unis.
Il y a aussi ces questions politiques et on peut se demander si Donald Trump a du souci à se faire politique. La semaine dernière, trois des candidats démocrates soutenus par Mme Dany, le maire de New York, ont gagné lors des primaires démocrates en vue des élections au Congrès américain. Ce sera en novembre prochain. Est-ce que ça, c'est un signe inquiétant pour le président américain ?
Non, pas du tout. Écoutez, j'ai voté pour Mandani et je suis ravi des candidats qui ont gagné les primaires à New York. Mais voyons les choses telles qu'elles sont. New York est une ville très progressiste cela ne reflète en rien l'opinion démocrate en général dans le pays qui est beaucoup plus centriste. Donald Trump n'a absolument pas à s'en faire avec cela. C'est plutôt pour lui une bonne nouvelle, je m'explique. Le Parti démocrate est totalement divisé, vous savez, c'est un parti qui normalement ne se réveille qu'au moment des grandes échéances électorales, c'est plus un ensemble qu'un parti au sein duquel coexistent différentes tendances politiques qui ne pourraient pas survivre, c'est le système américain, financièrement, médiatiquement, en dehors de ce grand ensemble, ce Parti démocrate. Et vous avez des factions totalement différentes. On pourrait dire que les gens comme Bernie Sanders, Mandani sont les comparer à Jean-Luc Mélenchon en France, oui, et des gens comme Joe Biden ou Kamala Harris à Michel Barnier et François Bayrou. Tout ça est tout à fait respectable, mais ce sont des gens qui n'ont pas toujours grand-chose à se dire. Bref, non.
Ça ne montre pas une force démocrate qui se remet en place.
Exactement. Donc, le fait que la gauche dite radicale soit de plus en plus forte au sein du Parti démocrate est plutôt une bonne nouvelle pour les Républicains, car cette gauche ne peut pas, pour l'instant, gagner une élection générale comme l'élection présidentielle. Par contre, elle peut mettre des bâtons dans les roues à des candidats centristes qui, eux, potentiellement, pourraient être des rivaux plus inquiétants pour les Républicains.
Romuald Seurat, toute l'attention de Donald Trump en ce moment est portée sur une date, c'est celle du 4 juillet, ça tombe ce week-end. Vous nous avez parlé souvent de cette date et d'à quel point elle est importante pour Donald Trump parce que ça célèbre les 250 ans de l'indépendance américaine. Donald Trump a choisi d'en faire tout un symbole politique de sa puissance. Vous habitez aux États-Unis, vous avez vu comment ça se prépare. Est-ce que ça va être le cas ce week-end?
Bien évidemment, écoutez, il y a une forme d'OPA sur ce 250e anniversaire des États-Unis et c'est pourquoi j'étais très surpris en me promenant dans les supermarchés américains de ne pas voir des petites gadgets, des t-shirts, etc. Vous avez beaucoup de choses quant à la Coupe du Monde, mais peu liées au 250e anniversaire. Une grande partie des Américains boudent cet anniversaire. Ils ont un petit peu l'impression, comme je le disais, que cela leur a été dérobé par cette administration. Bien évidemment, pour Trump, cela doit être son sacre. C'est le moment où il devait arriver triomphant face aux Américains. Malheureusement, la majorité des Américains considère l'Iran comme une défaite des États-Unis, donc c'est pas... Mais néanmoins, oui, on est en plein culte de la personnalité, hein, quand même, un président qui a sa face gravée sur de la monnaie, qui signe des billets de banque, une avenue à son nom, un aéroport à son nom, un président qui a sa photo, enfin son portrait dans les passeports qui vont être renouvelés pour une édition limitée de certains passeports qui doivent être renouvelés pour aux alentours du 4 juillet, porteront ces passeports, le portrait de Trump dans les premières pages. Imaginez, pendant 10 ans, vous avez Trump qui figure dans votre passeport. C'est quand même pas une très bonne nouvelle pour les opposants. Donc bref, oui, c'est pour Trump un moment très important, mais au-delà de Trump, et pour conclure là-dessus, c'est pour toute cette administration qui a des objectifs très précis. Hein. N'oublions pas que Trump 2 n'est pas le premier Trump, c'est un homme qui est arrivé au pouvoir avec l'aide d'une extrême droite ultra-radicale, et toutes ces personnes ont des objectifs très précis. Et justement, le 250e anniversaire a été le prêtre texte pour des gens comme Susie Wiltz, la secrétaire générale de la Maison-Blanche et grande architecte de la contre-révolution culturelle qui est aujourd'hui menée aux États-Unis, de réécrire l'histoire. Et donc, à l'occasion de ce 250e anniversaire, les manuels scolaires sont revus et corrigés, les musées également, 200 mots ont été interdits, comme l'a listé le New York Times, on ne peut plus parler de féminisme, on ne peut plus parler de génocide amérindien, on parle de moins en moins d'esclavage, etc. Donc, pour Trump, c'est une OPA, culte de la personnalité. Pour l'administration, c'est un moment qui permet de réécrire un nouveau roman national.
Merci beaucoup, Romuald Seurat, d'être venu nous voir ce matin, chercheur associé à l'IRIS et directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis.